Et c'est l'émission Les Voix de service qui se poursuit. Tiens, allons donc voir ce qui se cache dans les pages du Journal de Montréal. Alors aujourd'hui, à la une du Journal de Montréal, on voit une photo en mortaise de Madame Thérèse Savoie. Mais qui est Madame Thérèse Savoie? Eh bien, c'est la grand-mère de Max Pacioretty. Qui est Max Pacioretty? Ben franchement, vous savez pas qui est Max Pacioretty?
Mais oui, c'est un joueur de Scrabble.
C'est ça, avec une rondelle et des patins aux pieds. C'est effectivement un joueur de hockey et c'est même le capitaine. Eh bien, figurez-vous que M. Max Pacioretty, le nouveau capitaine du Canadien, a assisté à sa première messe francophone à l'église Immaculée Conception cette semaine, là où sa grand-mère Thérèse a été baptisée, autrement dit en plein cœur du plateau Mont-Royal. Ça fait la une du Journal de Montréal. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que c'est, je vous dirais, les deux tiers de la une du journal, puisque le CH amorce sa saison. Il y a même 8 pages là-dessus. Je compte sur Kevin Breton pour vous en parler un petit peu plus tard à l'émission Les Voies de service. Sinon, on annonce ce 945 millions de dollars d'électricité inutile qu'Hydro-Québec s'apprête à aller acheter à l'extérieur de nos frontières. On se demande bien pourquoi. Et en cinéma, le Québec courtise Hollywood. Ça fait également la une du Journal de Montréal. En divers, mettons à droite et à gauche, bonne nouvelle peut-être, le chef du SPVM souhaite la fin des pantalons de clown pour nos policiers. Je ne sais pas s'il va réussir, mais en tout cas, misant sur la très grande fierté des policiers, le nouveau chef du SPVM, Philippe Pichet, demande à ses troupes de ranger leurs pantalons de camouflage, mieux connus sous l'appellation de pantalons de clown. Le feront-ils ou pas? La suite au prochain épisode. Aujourd'hui... je vous parlais de ce cône hier qui a été abandonné depuis 3 ans en plein milieu d'une rue. Alors, on voyait le cône avec de la belle herbe bien grasse et bien tendre printanière et le cône avec du foin automnal. Eh bien, dossier réglé, la ville a trouvé le cône abandonné. Il n'a fallu que quelques heures à la ville de Montréal hier pour retrouver ce cône orange qu'elle avait oublié pendant 3 ans au beau milieu d'une rue résidentielle après que le journal eut révélé son existence. Alors, hier après-midi, des employés municipaux avaient tracé des lignes blanches autour du cône, signe qu'une intervention pourrait survenir bientôt pour la première fois depuis des lunes. Ils ne l'ont pas enlevé. Oui, et là, ils ne l'ont pas enlevé. Ils ont mis des petits traits bien droits autour pour dire « c'est là, là Également dans les nouvelles diverses trouvées dans le Journal de Montréal, entre autres, un candidat conservateur a été désavoué par son parti. Il a été exclu parce qu'il croit que les gays peuvent être guéris. Et puis, Madame Thibault a été remise en liberté. Elle reviendra devant la Cour d'appel en février 2016. Après 6 jours de détention, Lise Thibault a recouvré sa liberté. Elle a dormi dans son lit hier après que sa demande d'appel de sa sentence eût été accordée vers 17h. L'ex-lieutenant-gouverneur a ainsi pu quitter le secteur de détention du palais de justice avec son conjoint et prendre la route vers sa résidence de Saint-Hippolyte dans le nord de Montréal. La vieille dame qui est demeurée impassible toute la journée n'a fait aucun commentaire en quittant les lieux. Restez là dans quelques secondes, je vous lis des extraits de 2 chroniques, celle de M. Facal et celle de Mme Ravary. Et peut-être, si j'ai un petit peu de temps, celle de Mme Durocher. Nous sommes bien sûr dans le Journal de Montréal. Alors, M. Facal et Mme Ravary, tous les deux, leurs chroniques portent sur une seule et même chose. J'ai nommé le... Allez, Mathieu, un petit effort.
Le cône orange
non.
Qui porte un niqab.
Ah, Elle est très bonne. C'est effectivement sur le niqab. Bravo, vous avez gagné le droit de revenir la semaine prochaine. Le vrai, le faux et le niqab. Cette affaire du niqab comporte deux dimensions qui me pompent sérieusement l'air, dit Joseph Facal, mais peut-être pas pour les raisons que vous pourriez croire. D'abord, plusieurs de ses étudiants disent déplorer la très grande place prise par cette affaire dans le monde des médias, notamment. Jeunes et communicateurs professionnels ont ceci de commun qu'ils tendent à ranger toute l'affaire dans la catégorie des faux débats et des tempêtes dans un verre d'eau. Généralement, ils invoqueront comme argument le petit nombre de femmes concernées. On concédera parfois un malaise devant un tel accoutrement, mais que voulez-vous, point de suspension. Leur agacement est évident, dit Facal, est évidemment amplifié par le fait que la controverse semble redonner vie au bloc et profiter aussi aux diaboliques conservateurs. Mais sommes-nous pour autant devant un faux débat ? Non, dit Facal, car discuter du droit ou non de se cacher le visage au moment de prêter serment de citoyenneté, c'est soulever trois questions reliées. Comment réagir à la montée du fanatisme religieux chez nous ? Quels sont les droits et responsabilités des gens que nous accueillons ? Dans quel genre de société voulons-nous vivre ? Chacun est libre de ses réponses, dit Facal, mais qui soutiendra sérieusement que ces questions ne sont pas importantes et légitimes ? Mon deuxième agacement tient à l'accusation d'amalgame. Oui, des excités sur les réseaux sociaux mettent tous les musulmans dans le même panier. Il faut condamner cela fermement. Le problème est que ceux qui voient des amalgames chez autrui s'y livrent eux-mêmes allègrement. Françoise David vient de faire adopter une motion à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Le texte est un salmigondi mêlant l'accueil de réfugiés syriens, de mystérieuses déclarations inappropriées et l'islamophobie sur les réseaux sociaux. Et personne, dit M. Facal, ne s'est levé pour demander à Mme David si elle pensait que les migrants sont tous des réfugiés, pour lui demander quels étaient ses propos inappropriés et qui elle visait, pour lui demander si toute critique de l'islam était de l'islamophobie. Pour lui demander quel rapport entre tout ça et le niqab. Que sa dénonciation des amalgames prenne elle-même la forme d'une macédoine de légumes m'est apparue d'une ironie à la fois douce et amère, a dit M. Facal. Quant à Madame Ravary, elle écrit « J'ai jamais voté pour ça ». Fiable comme une horloge suisse, environ trois mois après l'élection d'un nouveau gouvernement, un cri va retentir dans la nuit « J'ai jamais voté pour ça ». Eh oui, parfois le réveil post-scrutin est brutal, dit-elle, et contrairement à un cadeau de Noël qui ne plaît pas, on ne peut retourner le nouveau gouvernement au magasin. Quatre ans, c'est long. Alors, faut bien choisir. Il reste moins de deux semaines à cette interminable campagne, mais personne n'ose prédire avec certitude qui finira par l'emporter, mais tous s'entendent que le débat sur le... C'est pour voir si tu suis.
Non, je suis, mais je voulais plus le dire.
Ah, tu veux plus dire niqab?
Non, je voulais plus le dire.
Ah bon, alors on va remplacer ça par...
Nightcap.
Chou-fleur, tiens. Mais tous s'entendent que le débat sur le chou-fleur a pris beaucoup de place au détriment d'enjeux importants qui ont été ignorés. Silence radio. Et là, je la rejoins un peu, Madame Ravary, sur les 1200 femmes autochtones tuées ou disparues. Mais un tapage pendant trois semaines pour le niqab. Et je vous rappelle qu'elles sont 52 femmes à porter le niqab au Québec et qu'il y en a deux qui ont refusé de l'enlever. Deux. Voilà, pour la sermentation. Si j'étais un tantinet cynique, c'est pas moi qui parle, c'est Madame Ravary. Je dirais que les stratèges conservateurs ont créé cette crise de toutes pièces pour faire monter des bouffées de colère et d'indignation chez des électeurs blasés, dans l'espoir de leur faire tracer un X à côté d'un nom et d'un parti pour lequel ils n'auraient jamais voté. Ils savent sur quel bouton appuyer, se marquer, émotion et peur. Ils ont prédit correctement que ce non-enjeu résonnerait auprès de nombreux Québécois. Contrairement au reste du Canada qui partage, mais plus calmement, l'inconfort devant le niqab, la réaction des Québécois a été épidermique. La position du Bloc québécois rejoint les préoccupations des Québécois. Mais puisque Gilles Duceppe ne deviendra jamais Premier ministre du Canada, il pourra changer les règles du jeu, contrairement à l'autre parti bleu. Je suis contre le port du voile intégral, du masque d'Anonymous ou d'une vulgaire cagoule, non seulement pendant le serment de citoyenneté, mais en tout temps dans un lieu public. Qu'on puisse, dans un pays démocratique, dissimuler son visage dans la rue me semble un non-sens, une hérésie. Alors elle dit, bon, c'est un sujet de du chou-fleur. Mon intention n'est pas de mousser la popularité des conservateurs, mais de donner une petite tape amicale dans le dos de mes concitoyens en leur demandant « Êtes-vous bien certain que l'ensemble du programme de Stephen Harper ainsi que sa feuille de route vous convient ? Sinon, dans quelques mois, face à une dernière loi omnibus dans laquelle on aura dissimulé des mesures anti-environnementales, un autre retrait d'un organisme ou d'un accord international, là elle fait référence à Kyoto, hein, dont nous nous sommes retirés, un énième resserrement des règles de l'assurance-emploi, vous hurlerez devant votre journal ou votre téléviseur, j'ai jamais voté pour ça. D'où le danger de faire du chou-fleur niqab ou de tout autre sujet qui brille un peu trop, par exemple, la décision du fédéral d'intervenir dans l'affaire du déversement des eaux usées dans le fleuve prévue pour la veille des élections, l'unique raison de voter pour une formation plus qu'une autre. » Voilà, c'était deux chroniques un peu sur le même sujet, sur le chou-fleur niqab, vu par Joseph Facal et Madame Lise Ravary. Le premier disant que, ben pourquoi je vous le redirai ? De toute façon, je vous ai tout lu, ce serait complètement inutile. Hier, dans les pages culturelles des journaux, on nous apprenait qu'il y a un livre qui doit être très très exaltant, qui va sortir de Mélanie Chouinard. Qui est Mélanie Chouinard ? C'est l'ex d'Éric Lapointe et elle a sorti un livre sur sa vie avec le rocker. Un livre un peu scabreux. Hier, il y avait quelques extraits dans les journaux que je n'ai pas lus, mais où l'on parlait ouvertement de débats amoureux entre Madame Chouinard et Monsieur Éric Lapointe, avec qui il a quand même eu deux enfants. Et Sophie Durocher, qui dit que cette ex-conjointe, Mélanie Chouinard et Marc Fischer, qui est auteur de best-seller, étaient interviewés à choix par mon conjoint Richard Martineau. Et elle dit « La pauvre Mélanie s'est tellement empêtrée dans ses explications. Oui, c'est Éric. Non, c'est pas Éric. Que c'en était pathétique. Sa photo est sur la couverture et c'est écrit bien clairement « Mélanie Chouinard, ex-conjointe d'une rockstar ». Mais il faudrait croire que ce bouquin n'a rien d'autobiographique. » Questionnée sur le sujet, Mélanie affirme que non, elle ne fait pas du ski de bottine sur la célébrité d'Éric Lapointe. Mais alors dit « Durocher, pourquoi écrit-elle dans sa note biographique qu'elle a partagé sa vie pendant 7 ans avec un musicien célèbre ?»« J'ai comme l'impression qu'on nous prend pour des cons », dit Sophie Durocher. Mélanie Chouinard se sert de la notoriété de son ex pour se faire un nom, pour se rendre intéressante et pour faire du fric. Mais elle ne veut pas qu'on l'associe à celui aux côtés de qui on l'a vu en photo à la une du 7 jours, du Écho Vedette et du Lundi. Ça me fait penser à Sacha Guitry qui disait « Je suis contre les femmes ». Tout contre. Mélanie Chouinard est contre Éric Lapointe, tout contre. Et si au moins le livre était bien écrit, mais c'est un charabia sans style, jugez vous-même le passage où Erika nous parle de son métier de serveuse. « J'ai le physique de l'emploi, car ayant été mannequin, je suis forcément grande puisque je fais 1m80. Ma première grossesse n'a pas trop laissé de traces et j'ai des seins, comme on dit, ce qui est toujours un atout dans ce métier ou dans la vie tout court, en tout cas avec les hommes dont c'est le truc. » Vous avez le droit de rire tout haut. Cher Dominique est entré dans le studio, il n'y a aucun problème. C'est fait pour ça. La maison d'édition nous annonce que ce livre risque de faire scandale. Je n'y vois, dit Sophie Durocher pour conclure, que l'opportunisme d'un auteur et de sa femme qui ont bâclé un livre tout croche pour surfer sur la célébrité d'une rockstar qui n'est pas un ange, mais qui méritait que mieux que cela, il est là, le scandale. Alors, Dominique Meillet-Carpe est entré dans le studio. Comment ça va, Dominique ?
Très, très bien.
On va passer un petit coin, un petit 12-15 minutes ensemble.
Tout à fait, avec grand plaisir.
Et de quoi allez-vous nous parler ce matin ?
En fonction du temps que j'ai, parce que j'ai quand même pas beaucoup de temps, je voulais parler...
Chichi, quand même.
Oui. Mais pas assez, j'ai plein de choses à dire. Je voulais parler de l'économie de partage. Acheter du neuf, pourquoi faire?
Oui.
Et aussi, un jus vert ou un bon verre? C'est aussi par Sophie Durocher.
Ok.
Une petite chronique
dont on parlait,
Sophie,
oui,
voilà.
Oui. Ben c'est bien parce qu'on a pas mal parlé d'environnement. Alors comme ça, on a de la suite dans les idées parce que Sophie Balthazar, que vous avez croisée tout à l'heure ici dans le studio, est une passionnée d'écologie. Alors, je vous écoute, je vous laisse toute la place, Dominique.
Pour l'économie de partage.
Par exemple.
Voilà.
On y va.
C'est par Julie Champagne et c'est dans le mois et compagnie du mois d'octobre. Alors, Julie Champagne, elle a pris l'exemple d'un couple, Manon et Tom, qui ont deux enfants et qui habitent un condo en ville, avec un quotidien assez mouvementé comme la plupart des jeunes familles. Alors, ils participent activement à la consommation collaborative. Comment ? Les enfants portent des vêtements de seconde main à 90%, raconte Manon. Pour mon mari et moi, c'est environ 50%. Idem pour les meubles et les articles pour bébé. Et sauf pour la voiture de Tom qui travaille à Mirabel, nous utilisons le Bixi, le métro et l'autobus. De plus, je visite régulièrement les bibliothèques et je donne les livres à des cafés du coin où les gens peuvent piger dans une bibliothèque commune. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. J'emprunte des jouets à la Joujoutech du quartier au lieu de les acheter, de les trouver et de leur trouver une place dans nos placards. Parce que c'est vrai qu'on achète des jouets aux enfants, on remplit les placards et puis trois mois après, ils n'en veulent plus parce qu'ils ont passé l'âge. Sans compter que Liam, qui est un de ses enfants, est super content d'aller se chercher de nouveaux jouets de temps en temps. La jeune femme de 36 ans partage aussi un équipement de camping avec son frère, prête son condo durant ses vacances et songe éventuellement à l'offrir sur un site d'échange. Je fais également une quinzaine d'heures de bénévolat par mois. Je le dois bien, car je participe à plusieurs activités qui n'auraient pas lieu si ce n'était pas de l'aide des bénévoles. Parce que pour partager, il faut bien des gens qui trient les vêtements ou les jouets. Et voilà. Dès que j'ai besoin, je pense automatiquement emprunt ou seconde main. Mais il y a quelque chose que je veux vraiment. S'il y a quelque chose que je veux vraiment et que je ne le trouve pas dans le seconde main, je l'achète tout simplement. Alors, c'est une tendance vraiment qui est de plus en plus importante partout. Statistiquement, voilà.
Dominique, vous avez le droit de revenir la semaine prochaine aussi.
On voit que ce marché rejoint beaucoup la jeune génération. Nous dit Fabien Durif, qui est cofondateur et directeur de l'Observatoire de la consommation responsable. En revanche, on ne parle plus d'une niche. La consommation collaborative a atteint la maturité et séduit maintenant tous les strates de la société. Si le gain économique motive la plupart des transactions, les adeptes de la consommation collaborative évoquent aussi un sentiment de communauté, la convivialité de la démarche, ainsi que les valeurs environnementales. J'ai du mal ce matin, quand elles ne sont pas utilisées, les jouets, je les donne ou je les passe au suivant. Voilà. J'habite dans un condo de 1000 pieds carrés et j'aime l'idée de ne pas avoir besoin d'un grand espace pour être bien. Fabien Durif est catégorique. La tendance ne fera que prendre de l'ampleur avec des plateformes européennes bien rodées qui viendront s'établir chez nous, ou encore avec de nouveaux concepts spécifiquement adaptés à la culture et à la réalité québécoise. On verra aussi apparaître une plus grande diversité de plateformes de seconde main avec des concepts pointus. Par exemple, des montres de luxe, du mobilier, des bijoux. Le marché est si grand qu'il y a maintenant de la place pour ce genre de spécialisation. Une excellente nouvelle pour celles qui souhaitent économiser tout en découvrant une façon de consommer plus humaine et plus authentique.
Alors, par exemple, Stéphanie Balthazar nous parlait à Berlin. On peut, vous savez, comme dans les vitrines où on peut prendre un livre et le ramener, eh bien, en ce moment, il y a des... Je ne sais pas dans quoi c'est installé, mais on peut emprunter des vêtements.
Et qu'on ramène.
Mais en pleine rue, comme ça.
Oui. Mais là, il nous parle, par exemple, il nous donne quelques exemples. Deuxième édition, une fabuleuse boutique en ligne de vêtements et d'accessoires stylés de seconde main. Ça, c'est on le trouve à Montréal. troque des trucs, des activités de rencontres et d'échanges d'objets de toutes sortes entre citoyens qui désirent opter pour la consommation collaborative. Troque service aussi, un site d'échange de services entièrement gratuit. Une banque d'échange communautaire de services, un réseau d'échange de biens et de services sympathiques et conviviales. Freecycle.
Oui.
Un réseau de personnes qui donnent gratuitement et sans contrepartie des objets à d'autres personnes dans leur groupe local.
Oui, moi je suis inscrite à ça.
Voilà.
Et je peux vous dire que j'ai déjà
ça
récupéré.
Ça fonctionne bien.
Mais ça fonctionne très bien. J'ai déjà demandé à un moment donné mon fer à repasser à lâcher. Bah, j'ai demandé un fer à repasser. Deux jours après, j'avais rendez-vous au métro Berry et j'ai récupéré un fer à repasser qui va très très bien. Je vous remercie.
Voilà.
Mais non, mais c'est vrai. Mais non, mais pourquoi pas?
Ben, pourquoi en acheter? S'il y a des gens qui en ont deux et qu'ils ne l'utilisent pas, ou
c'est sûr.
La consommation à outrance est terminée,
crois. Non, mais c'est vraiment superbe. Je vous remercie de nous avoir partagé ce papier-là. Je sais que vous en avez d'autres et j'ai bien hâte aussi. Alors, je me suis dit, on va varier les plaisirs. Mais vous avez autre chose à
un
nous proposer.
Un jus vert ou un bon verre, Clotilde? C'est par Sophie Durocher et c'est dans le mois et compagnie de novembre.
Oui.
Alors,
bon verre.
Voilà. Je sais que Gwyneth Paltrow et tous les autres gourous du bien-être vont me regarder de travers.
Ah.
En plus, je n'ai jamais ressenti le besoin de faire une cure détox parce que c'est fou, je suis convaincue que mon corps est parfaitement conçu pour se détoxifier tout seul. Une cure de jus de plusieurs jours, vous n'y pensez pas. J'aime trop croquer dans une vraie pomme, engouffrer un plat de penne à l'arrabbiata et déguster des bonnes frites croustillantes. Manger mou, je garde ça pour mes vieux jours. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à trouver agaçante cette mode du bien-être à tout prix qui déferle sur nous et nous fait sentir coupables si on ne se purifie pas le côlon en buvant du gazon passé au mélangeur. Je comprends tous les bienfaits de ces super aliments bourrés de fibres, de protéines et de folates. Je suis pour les folates, vive les folates. Mais est-ce qu'il peut y avoir un équilibre? A-t-on le droit de se taper des jus verts, mais aussi deux ou trois verres de chardonnay? Peut-on aimer la salade de quinoa et les côtes levées? A-t-on le droit d'apprécier les graines de chia et les chips au vinaigre?
Oui.
En matière de nutrition, j'aime beaucoup l'approche du chanteur Beck. Il est végétalien, ce qui signifie qu'en plus de ne pas manger de viande, il ne consomme aucun produit animal, ni lait, ni beurre, ni œuf, ni miel. Un jour, quelqu'un lui a dit qu'il souhaitait vraiment devenir végétalien, mais qu'il serait incapable d'arrêter de manger du bacon. Alors Beck lui a répondu « Pas de souci, tu n'as qu'à être un végétalien qui mange du bacon.
» C'est tout.
Bingo! Il n'y a pas de règles immuables. L'alimentation n'est pas une religion. On se fait son propre modèle. On mange ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir. Vous vous rappelez la folie des antioxydants? Tout le monde s'est mis à manger des bleuets parce qu'une étude avait démontré que c'était bourré d'antioxydants. Vous savez quoi? Je mangeais des bleuets avant. J'en ai mangé pendant et j'en mange encore après la mode des bleuets.
Ben oui.
Pourquoi? Parce que c'est bon, que ça goûte l'été, que chaque bulle bleue est une pépite de bonheur. Alors, si on se disait qu'on redécouvrait le plaisir de manger sans se soucier de ce que Gwyneth et les autres gourous nous disent de mettre dans notre assiette, c'est là qu'il est vrai, le vrai bien-être.
Ça, c'est vrai. Moi, je suis pas toujours d'accord avec Sophie, mais alors là, vraiment,
100%,
Sophie, 100%.
Hein, 100%,
ça, c'était
on est
signé
d'accord.
Sophie Durocher dans Moi et compagnie.
Moi et compagnie de novembre.
Nous avons encore 4 minutes à passer ensemble.
Ah,
on peut en dire des choses.
Ah oui, tout à fait. Alors, j'ai une toute petite nouvelle que j'ai trouvée vraiment drôle. C'est l'agence France Presse de Stockholm. Un Suédois de 32 ans a été arrêté pour conduite de tondeuse en état d'ivresse alors qu'il coupait l'herbe dans son jardin, annoncé mercredi la police locale. L'homme a été appréhendé au volant de sa tondeuse autoportée sur son terrain à Oudnas, je ne sais pas très bien parler le suédois, et a indiqué l'AFP, un porte-parole de la police du comté. On a été appelé par des témoins qui l'ont vu conduire manifestement ivre à la fois chez lui et dans le quartier, a-t-il précisé.
Ça, c'est moins drôle, parce que bon, chez lui, ça va, mais...
Oui, ça va pas vite, une tondeuse. Hein.
Non.
Le suspect a été emmené au poste de police où un éthylotest a révélé un taux d'alcoolémie de 0,77 mg par litre d'air expiré, soit 7 fois la limite légale. Oula. Un procureur a été saisi. L'homme pourrait toutefois échapper à une condamnation et écoper d'un simple rappel à la loi, selon le porte-parole. Donc, ne buvez pas quand vous conduisez votre tondeuse. La presse canadienne Kelowna. La plupart des événements de financement extérieur impliquent une épreuve physique, quelques kilomètres de course, de marche, de vélo. Puis, il y a la Great Canadian Bacon Chase, la grande chasse au bacon canadien, qui permet simplement de manger autant de bacon que l'on souhaite. Environ 400 personnes se sont inscrites à l'événement cette année, qui aura lieu dimanche, au profit du groupe de jeunes professionnels JC's. L'an dernier, 313 personnes ont amassé environ 6 000 $ pour un refuge pour itinérants à Calgary, le Inn for the Cold. Le prix d'inscription est de 25 $ pour les adultes et inclut un nez de cochon en jouet, un t-shirt portant l'inscription « I love bacon » et du porc gras et salé à volonté. L'association du porc de la Colombie-Britannique a donné cette année 160 kilos de viande pour l'événement. Drôle d'idée pour une campagne de financement.
C'est le genre d'idée
qui résulte d'une soirée avec quelques bières entre amis qui parlent de différentes façons d'amasser de l'argent pour une bonne cause.
Ouais, bah, il ferait mieux d'aller conduire une tondeuse.
Voilà.
Je trouve ça très agréable quand vous nous arrivez avec des petites nouvelles insolites comme ça. Dominique, ne vous gênez surtout pas. On aime ça. Je vous retrouve la semaine prochaine.
Avec grand plaisir, Clotilde.
Je vais essayer de faire en sorte que vous ayez encore 3 ou 4 minutes de plus, je vous le promets.
C'est gentil. Merci. Petit à petit, je vais réussir à grignoter, moi aussi.
Après, vous allez voir. Ils vont tous vouloir, finalement, me remplacer. Bon, ben voilà.
Non, irremplaçable.
Oh, arrêtez, les cimetières en sont pleins. Merci beaucoup, Dominique Meillet, charmante collaboratrice du mercredi.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ben, on est le mercredi 7 octobre, mais pour moi, on est un petit peu la veille de Noël parce que c'est ce soir que recommence finalement la saison de hockey dans la Ligue nationale de hockey avec un match du Canadien qui sera présenté sur les ondes de TVA. Pour l'occasion, la troupe de Michel Therrien va affronter celle de Mike Babcock, donc de Toronto. On en parle dans quelques instants. Au sport, c'est Kevin Breton qui est là. C'est le début de la saison dans la LNH. Oui, je suis très excité. Par contre, les médias, ils continuent d'en faire tout un plat de cette histoire de Zach Kitchen qui s'est mis, c'est le cas de le dire, les pieds dans les plats. Deuxième fois que je dis plat dans la même phrase. Donc, le Journal de Montréal et son chroniqueur Jean-François Chaumont titre « Un départ ombragé » pour signifier le début de la saison. Il n'y avait pas cette frénésie habituelle à la veille de l'ouverture d'une nouvelle saison. L'histoire de Kayshen, qui a choisi de rentrer en cure de désintoxication, monopolisait encore l'attention dans le vestiaire du Canadien. Avant le départ de l'équipe pour Toronto, Piqué Subban et Carey Price ont à leur tour parlé de leur nouveau coéquipier. On devrait plus se concentrer à savoir si Zach s'en sortira, a résumé Subban. Nous savons que la vie d'une personne peut changer en une seconde. Nous sommes juste heureux de savoir qu'il recevra les traitements nécessaires. Je lui ai envoyé un message texte pour lui offrir mon appui. Je n'ai pas encore eu la chance de lui parler, a renchéri Price. Premièrement, je me réjouis qu'il n'ait pas subi de graves blessures après son accident, tout comme les individus qui étaient avec lui. Zach recevra l'aide de ses coéquipiers. Je connais quelques personnes qui ont déjà eu recours à ce programme en matière de lutte à l'abus de drogue et d'alcool. Il ne s'agit pas d'une étape facile. La meilleure chose que nous pouvons faire pour lui, c'est de l'encourager. En conférence de presse, après un entraînement rigoureux de plus de 60 minutes, Michel Therrien n'a pas voulu s'aventurer dans le dossier Cation. Il préférait s'en tenir aux questions de hockey. Je crois que Marc Bergevin a fait le tour de la question et je n'ajouterai rien à ce sujet, a répliqué l'entraîneur en chef. Je veux me concentrer sur mon équipe. Comme entraîneur, je cherche surtout à connaître un bon départ contre les Maple Leafs. Therrien a toutefois admis que le CH savait, avant de conclure la transaction avec les Canucks, que Cation avait déjà eu recours au programme d'aide de la LNH. Encerclé par une dizaine de journalistes, Price, quant à lui, restait toujours aussi calme à l'aube du premier match. « C'est toujours agréable d'entreprendre une nouvelle année, mais la préparation reste la même », a affirmé le numéro 31. Dans un sens, c'est rassurant de garder la même routine. Nous repartons avec une feuille blanche et devant nous et c'est excitant. Toujours prudent, l'homme masqué du tricolore s'est tenu bien loin du piège des promesses. Notre plus grand défi consistera justement à bien gérer les attentes, a lancé Price. Plusieurs personnes nous prédisent de belles choses, mais nous devons rester concentrés sur le chemin à suivre sans brûler les étapes. Et il ne faut pas faire l'erreur de comparer avec la saison dernière ou celle d'avant. Pour cette saison 2015-2016, le CH misera sensiblement sur le même noyau fort. Les Price, Subban et Max Pacioretty resteront les trois moteurs de l'équipe. Nous avons ajouté deux joueurs, Alexander Semien et Thomas Fleischmann, qui nous procureront plus de stabilité au trio, a reconnu Therrien. J'aime beaucoup cette stabilité. Je trouve que notre équipe est en avance si nous nous comparons avec le camp de l'an dernier. J'aime aussi notre profondeur et j'espère que nous développerons une chimie le plus rapidement possible, de conclure l'entraîneur. Donc, c'est ce soir que ça commence à 19h et j'ai très hâte. On s'y attendait. Hein. Il fallait pallier le départ de Zach Cation. Il y avait un trou dans l'alignement là, à la suite de sa suspension. Donc, le Canadien a réclamé au ballottage le joueur de centre Paul Byron, soumis hier par les Flames. Byron, natif d'Ottawa et âgé de 26 ans, a totalisé 21 et 19 points au cours des deux dernières saisons. La saison dernière, il a réussi 6 buts et récolté 13 aides en 57 matchs. Un ancien des Olympiques de Gatineau dans la LHJMQ, Byron est un joueur de petite taille à 5 pieds 7 pouces et seulement 153 livres. Lui qui va porter le numéro 41 va rejoindre l'équipe à Toronto où le CH amorcera sa saison ce soir. C'est un joueur rapide qui possède de bonnes aptitudes. Il a le cœur à l'ouvrage, il a plein de belles qualités. Il va nous aider au chapitre de la profondeur à l'attaque, a commenté Therrien. Son acquisition va aussi permettre à des jeunes comme Jacob Delarose de poursuivre leur progression dans la Ligue américaine. Le tricolore a d'ailleurs cédé Delarose aux Ice Caps de Saint-John à Terre-Neuve après la séance d'entraînement en Brossard. Il fait beaucoup de belles choses dans la rondelle, a dit Therrien au sujet du Suédois de 20 ans. Nous voulons qu'il gagne de la confiance à l'attaque, ça vient avec le temps et l'expérience. Nous allons peut-être le revoir cette saison, d'ici là nous voulons qu'il joue dans toutes les situations avec les Ice Caps. Les deux joueurs que le Canadien avait quant à lui exposés au ballottage, le gardien Tokarski et le défenseur Barberio, n'ont pas trouvé preneur auprès des 29 autres équipes. Ils se joindront également aux Ice Caps. J'ai oublié de le préciser, mais c'était un texte que je viens de lire de Robert Laflamme de la presse canadienne. Maintenant, du hockey, on passe au baseball. Une surprise qui est quand même survenue hier dans le monde du baseball alors que les Astros ont éliminé les Yankees de New York. Menés par une performance remarquable de leur partant Dallas Keuchel, les Astros de Houston ont vaincu les Yankees au compte de 3-0 dans le match suicide pour le titre de meilleur deuxième dans la Ligue américaine. Ça avait lieu hier. Même s'il n'avait profité que de 3 jours de repos depuis son dernier départ, Kutchell a blanchi les Yankees pendant 6 manches, limitant ses adversaires à 3 coups sûrs tout en cumulant 7 retraits au bâton. De son côté, Masahiro Tanaka n'a pas connu le départ espéré à sa première présence en éliminatoire. Après avoir retiré dans l'ordre les 3 frappeurs à se présenter devant lui en première manche, l'as japonais des Yankees a rencontré un premier écueil en la personne de Colby Rasmus en deuxième. Celui-ci est parvenu à retrousser un tir bas par-dessus la clôture du champ droit pour donner les devants aux Astros. Les visiteurs ont su tirer un simple et un 2 buts sur balle, et 2 buts sur balle, dis-je bien, pour remplir les sentiers par la suite. Mais Tanaka est parvenu à se sortir d'affaire en contraignant le dangereux Jose Altuve à cogner un roulant. Carlos Gomez a doublé l'avance de la formation texane en 4e, lui aussi avec une longue balle en solitaire dans la gauche cette fois. Justin Wilson a finalement remplacé Tanaka après 5 manches. Alex Rodriguez a eu une belle chance de niveler la marque lorsqu'il s'est présenté au marbre avec 2 coureurs sur les buts et 2 retraits en 6e, mais il s'est contenté d'une chandelle au champ centre sur le premier tir. A-Rod n'a pas frappé en lieu sûr avec des coureurs en position de marquer à ses 19 dernières présences au bâton. Altuve a procuré un point d'assurance aux Astros en 7e lorsque son simple a permis à Jonathan Villar de compléter le tour des sentiers. Ça aussi, ça serait très intéressant à suivre le début des séries au baseball. Ben, une petite dernière alors que j'accueille Clotilde pour vous dire que le grand argentier de la F1, Bernie Ecclestone, a annoncé hier que la Formule 1 allait changer de main avant la fin de l'année et que quelques acheteurs s'étaient déjà montrés intéressés. Certains vont pousser un soupir de soulagement et dire enfin, Ecclestone, un vieux de la vieille garde, va enfin, non pas mordre la poussière, ce serait trop absolu de dire ça comme ça, mais disons, elle cédait sa place à un plus jeune. Bonjour Clotilde.
Bonjour Kevin. Oh mon Dieu, mais c'est une grosse nouvelle ça.
Oui, puis on l'attendait quand même depuis longtemps. C'est le Financial Times qui a rapporté la nouvelle et c'est paru dans l'association, dans le Journal de Montréal pour l'association France Presse aujourd'hui.
Et vous restez avec moi?
Ben oui, je reste avec toi.
D'accord.
Alors, Kevin, vous restez avec moi pour nous parler de quoi aujourd'hui?
Ben voilà, c'est l'heure de mon petit édito qui concerne toujours un sujet qui touche de près ou de loin au monde du handicap.
Oui.
Et puis, j'ai décidé de lire un texte que j'ai publié dans le Urbania, le blog d'Urbania, la semaine dernière, au sujet de l'affaire Mike Ward et de Jérémy Gabriel.
Oui.
Qui a été victime de quelques-uns de ses commentaires. Donc, je vais vous lire ça sans
plus
tarder.
Super.
Donc, le titre, il y aura toujours des épais. Le titre original de cette chronique était « Beep off Mike Ward » et elle n'était initialement constituée que de gifs offensants en forme de doigt d'honneur. C'est que « Beep off Mike Ward » était jusqu'à tout récemment la somme de toutes mes réflexions sur cette affaire qui a enflammé le web et rassuré les humoristes dans leur précieux rôle de chien de garde de la liberté d'expression. Mike Ward peut bien dire ce qu'il veut. S'il souhaite faire commerce de la difformité des autres, c'est son affaire. Il a le droit, la société le permet, sur le plan légal du moins, et tant mieux pour lui, car autrement, je m'inquiéterais sérieusement de ses perspectives de carrière. J'étais toutefois quand même un brin découragé de constater l'hégémonique soulèvement qui s'en est suivi. Humoristes, membres du showbiz et autres courageuses personnes de l'Internet, marchant main dans la main pour former une barrière protectrice autour de leur enfant chéri. En profitant du coup pour diffuser insultes et autres montages Photoshop afin d'humilier davantage un jeune homme qui n'a, au fait, jamais demandé plus que d'entretenir sa passion dans la dignité. Tout ça au nom de la liberté d'expression que vous connaissez peut-être sous son petit sobriquet de diffamation qu'on utilise seulement lorsqu'elle s'exerce à l'intérieur des limites hertziennes de la vieille capitale. En dehors de cette zone, elle est sacrée. Et c'est correct, c'est une notion riche, crucial et indispensable, tout à fait essentiel à la société et à la démocratie. Des gens sont morts pour libérer la parole, puissant instrument de changement. Des peuples se battent encore, toujours, de la Chine jusqu'aux confins du web pour que la vérité puisse voir le jour. Les grands philosophes se sont dit prêts à mourir au nom de la liberté d'expression. Je doute toutefois que Voltaire se serait pris une balle pour Mike Ward, afin que celui-ci puisse librement se moquer du crâne difforme d'un enfant de 10 ans. C'est cependant l'usage qu'il choisit d'en faire, mais je me répète, il a le droit. Je ne lui apprends rien d'ailleurs, puisqu'il se qualifie lui-même d'artisan de l'humour trash. Je n'aurais pas pu mieux dire. Il fait de l'humour poubelle, au même titre que certains animateurs font de la radio poubelle. La différence, c'est que si un animateur chauve de Québec avait ri d'un enfant handicapé avant de fantasmer sur sa noyade, on l'aurait lynché. La liberté d'expression est à géométrie variable, parce que l'humour jouit d'un statut particulier. On le perçoit comme un médium à part, une forme d'art dépourvue de responsabilité. Il faudrait accepter l'humour comme un simple spectacle, un divertissement inoffensif que l'on doit prendre à la légère. Dans son idéal, oui, l'humour incarnerait cela, mais dans la réalité, je me suis remémoré mes chagrins de cours d'école, je me suis souvenu de mes inaptitudes devant les jeux de marelle et les moqueries qui s'ensuivaient dans cette micro-société dominée par le ballon chasseur. Je me suis rappelé que les méchancetés qui se disaient à mon sujet n'étaient pas inventées de toutes pièces. Les écoliers sont, oui, créatifs, mais surtout influençables. Ils imitent, et leur modèle préféré, les comiques. Ce sont des railleries qui blessent, je sais de quoi je parle et je suis mal à l'aise qu'on les encourage. Je ne suis pas inquiet pour la liberté d'expression, je suis en revanche mal de voir des humoristes se faire porte-parole de campagne contre l'intimidation, tout en continuant de vendre des billets sur le dos de l'apparence physique d'autrui. Mais on ne peut pas légiférer contre les épais. Il y en aura toujours. La bonne nouvelle, c'est qu'on a le droit de les traiter d'épais en retour, et que si on est assez nombreux à le faire, peut-être que certains épais ajouteront une dose de respect à leur liberté d'expression. La société ne s'en portera que mieux.
Important de le dire, tout ça, Kevin, et je vous remercie de vous être fait le porte-parole de tellement de gens qui aimeraient peut-être avoir cette tribune que vous avez, mais c'est bien que ce soit vous qui l'ayez, parce que c'est toujours bien envoyé.
Ça me fait bien plaisir.
Alors, merci infiniment, Kevin. Et nous, on s'en va en région. Je ne l'oublie plus jamais maintenant. Je m'en vais donc en région et je commencerai par le droit, comme je le fais souvent, avec un papier, une nouvelle fois, de Denis Graton. Et vous allez comprendre pourquoi il m'a interpellée. C'est un papier, et j'imagine que Kevin Breton va l'apprécier aussi, qui s'appelle « Au-delà des préjugés ». Et Denis Graton qui nous dit « Saviez-vous que le mois d'octobre est le mois du nanisme ?» Non. Eh bien, personnellement, j'ignorais même qu'un tel mois existait, nous dit-il. Mais un communiqué de presse émis par l'Association québécoise des personnes de petite taille, l'AQPPT, j'ignorais aussi qu'une telle association existait, m'a appris récemment que la 3e édition du mois du nanisme se tient en octobre. Tenir un tel mois est plein de bon sens quand on s'arrête pour y penser, dit Denis Graton. Les personnes atteintes de nanisme sont souvent victimes de mauvaises blagues, de préjugés persistants, de rejets et d'exclusions sociales, simplement parce qu'elles sont différentes. Donc, voyez-vous, on est vraiment, on a de la suite dans les idées avec le papier que vient de nous lire Kevin Breton. Donc, de consacrer un mois à la sensibilisation à la condition du nanisme est une très bonne occasion d'en parler et de mieux connaître la réalité des gens qui vivent avec ce handicap. Madeleine Pollens, ça s'écrit P-O-L-E-N-Z, elle a 63 ans, elle est d'Orléans, elle est naine. Mais elle me reprend rapidement. Le mot « naine » n'est pas très bien accepté, me corrige-t-elle gentiment. C'est un peu péjoratif comme mot, comme le mot « midget » en anglais est inacceptable. On préfère le terme « personne de petite taille ». Eh bien voilà, j'aurais déjà appris ma première leçon en ce mois du nanisme. Madame Pollens, donc, comme toutes les personnes vivant avec sa condition, a été victime dans sa jeunesse de blagues déplacées, de railleries et de moqueries et d'exclusions. Mais cette mère monoparentale a su surmonter les obstacles qui se sont souvent dressés devant elle. Elle a su aller au-delà des préjugés sans fondement, basés uniquement sur l'ignorance, et elle a réussi sa vie. Aujourd'hui retraitée de la fonction publique fédérale, après une longue carrière comme adjointe administrative à Statistique Canada, Madame Pollens admet cependant que sa route n'a pas été toujours sans heurts. L'école primaire n'a pas été facile, se souvient-elle. J'étais la cible de blagues, de moqueries. On me pointait du doigt. Je me souviens d'un garçon qui m'a attendue une fois après l'école pour me battre, simplement parce que j'étais différente. Une chance que ma mère était intervenue auprès de la directrice de l'école, mais les blagues et le reste, c'était sur une base quotidienne. J'étais forte de caractère. Je prétendais à l'école que tout ça ne me dérangeait pas. Mais c'est en arrivant à la maison en fin d'après-midi que j'éclatais et que je fondais en larmes. J'étais en colère. Les choses se sont beaucoup mieux déroulées au secondaire, affirme-t-elle. Elle avait ses amis et ensemble, elle formait un groupe tricoté serré. Mais la solitude s'est tranquillement installée. Quand mes amis ont commencé à fréquenter les garçons, j'ai été un peu exclue du groupe, explique-t-elle. Des amis sortaient le soir avec leur chum, donc mes soirées, je les passais seule à la maison. Mais si j'ai pu passer à travers tout ça, c'est parce que j'avais une bonne fondation. Je suis la seule personne de petite taille dans ma famille et dans ma parenté, mais mes parents m'ont élevée en me faisant comprendre que je n'étais pas différente, que je pouvais être indépendante et voler de mes propres ailes. J'ai eu une bonne fondation solide. Malheureusement, d'autres n'ont pas eu cette chance. Et comment les choses se sont-elles passées sur le marché du travail ? Très bien, répond cette femme, je n'ai jamais senti de préjugés à mon égard, mais j'ai été chanceuse de travailler à la fonction publique où les différences sont généralement acceptées. Je ne suis pas sûre que j'aurais été si chanceuse au privé, peut-être, mais je ne suis pas sûre. J'ai des amis ultra compétents dont les candidatures pour un emploi au privé ont été rejetées simplement parce qu'ils sont des personnes de petite taille. Et je suis chanceuse d'être née au Canada. Dans certains pays, les enfants de petite taille sont rejetés par la société et par leur propre famille et ils se retrouvent dans un orphelinat où, l'espère-t-on, ils seront adoptés par des gens d'ailleurs. Alors on voit en exergue à ce papier une photo de Madame Pollens et quelques faits statistiques et quelques chiffres qui nous sont rapportés ici. Savez-vous que plus de 80% des personnes ayant un important retard de croissance naissent de familles où il n'y a aucun précédent de nanisme? Toute femme peut donner naissance à un enfant de petite taille. La prévalence est d'une naissance, une naissance sur 10 000. Le mois d'octobre est également reconnu mois du nanisme dans plusieurs États américains depuis 2009. Alors merci à M. Gratton de nous avoir rappelé que le mois d'octobre est le mois du nanisme. Je pense qu'il était essentiel ici à Canal M qu'on le fasse savoir. Jean-Simon Gagné, ce matin, dans Le Soleil, revient sur l'affaire Marcel Aubu. Je ne vous lirai pas tout ce qu'il écrit parce que ce ne sont que des choses que l'on sait maintenant. La lettre qui lui avait été envoyée, le fait qu'il ait démissionné, qu'il se soit excusé platement, etc., etc. Mais par contre, comme toujours avec Jean-Simon Gagné, ça se finit par une histoire drôle. Alors, il écrit, M. Gagné, je ne sais pas pourquoi, mais les malheurs de Marcel Aubu me rappellent soudain l'histoire du Don Juan un peu timbré qui s'introduit chez des femmes inconnues, la nuit, pour leur laisser ses messages. Le gars attend toujours que les dames soient absentes pour éviter les rencontres. Mais un jour, lorsqu'il entre dans un appartement, une voix retentit dans le noir. « Je te vois, poussin aussi !» Le gars reste figé, il ne bouge plus. La voix se fait à nouveau entendre. « Je te vois, poussin aussi !» Finalement, le gars ouvre une lampe de poche et il aperçoit un perroquet. « Je te vois, poussin aussi !» répète l'animal. « Ouf !» dit l'homme à haute voix, « ce n'est qu'un minable perroquet !» Et le perroquet qui répond « Je ne suis peut-être qu'un minable perroquet, comme tu dis, mais poussin, c'est un Doberman !» Beau beaucoup moins drôle, Monsieur Harper dit encore non à une enquête en ce qui concerne les femmes autochtones assassinées ou disparues après avoir réussi à éviter toute discussion. Sur les enjeux des Autochtones en 65 jours de campagne électorale, le premier ministre sortant et un de ses candidats ont fait au 66e jour des déclarations qui leur attirent des critiques. Hier, Stephen Harper a encore une fois refusé d'ouvrir une enquête publique sur les 1200 femmes autochtones assassinées ou disparues depuis 1980. Après avoir répété qu'il y a eu suffisamment d'études sur le sujet, il a offert un nouvel argument. « La plupart de ces meurtres, même s'ils sont tristes, ont été résolus », a dit M. Harper. Monsieur Harper, qui démontre une méconnaissance honteuse des faits, lui a lancé le chef néo-démocrate Thomas Mulcair. Dans un rapport de 2014, la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, conclut que près de 90% des meurtres ont, en effet, été résolus. Ces chiffres ne tiennent pas compte, cependant, des disparitions. Et puis, la déclaration de Monsieur Harper rappelle que le chef conservateur traite ce phénomène comme tout autre crime et non pas comme un problème social. Sa sortie a permis à son rival néo-démocrate de réitérer son engagement de mettre sur pied une enquête publique sur ces meurtres et disparitions dans les 100 premiers jours d'un gouvernement Mulcair. La campagne conservatrice a dû également éponger les déclarations d'un candidat montréalais, Richard Segala, dénoncé par la campagne libéral. Le 1er octobre, dans ce débat public, M. Segala, candidat dans Notre-Dame-de-Grâce-Westmount, a été invité à dire ce qu'il pense de la tenue d'une enquête sur les femmes autochtones. Dans sa réponse, il s'en est pris au Nunavut qui, selon lui, n'est pas une expérience si extraordinaire. Selon lui, la violence y serait mille fois plus présente que dans le reste du pays. Vous savez, nous avons essayé de leur déléguer une partie du pouvoir et voilà ce qui s'est produit, a-t-il dit à l'Assemblée. Hier, il refusait les entrevues et affichait sur sa page Facebook une clarification. « Je soutiens pleinement la délégation des pouvoirs au Nunavut annoncée par le gouvernement conservateur. Peut-on y lire ?» Voilà, donc, la plupart de ces meurtres, a déclaré M. Harper, pour finir sur ce sujet, la plupart de ces meurtres, même s'ils sont tristes, ont été résolus, affirme M. Harper. Raif Badawi pourrait-il recevoir le prix Nobel de la paix? C'est ce qu'Isabelle Pion se demande dans la Tribune ce matin. Le blogueur saoudien Raif Badawi recevra-t-il ce prix Nobel 2015? C'est vendredi que le nom du lauréat sera dévoilé à Oslo, en Norvège. Le nom du prisonnier d'opinion se retrouve en lice, aux côtés d'autres comme la chancelière allemande Angela Merkel, le pape François et Edward Snowden, l'ancien agent de renseignement américain. Aux yeux d'Anne Sainte-Marie d'Amnesty International, l'attribution d'un tel prix pourrait avoir des impacts positifs, mais ne signifie pas un passeport pour la liberté pour autant. L'opposante birmane Aung San Suu Kyi en est un exemple. Même si elle a reçu le prix Nobel de la paix en 1991, elle n'a été libérée qu'en 2010. Le dissident chinois Liu Xiaobo purge toujours une peine d'une dizaine d'années de prison, malgré l'attribution du prix en 2010. Alors c'est certain que le prix Nobel est une importante reconnaissance, ce qui fait qu'en soi, indépendamment de la réaction de l'Arabie saoudite, ce serait un grand honneur qui reconnaîtrait que Raif Badawi n'est pas un dangereux opposant au régime, mais bien un blogueur qui n'a prôné que le dialogue, qu'il ne faisait qu'exercer sa liberté d'expression. Pendant cela, il faut savoir que sa conjointe Ensa Feydar se trouve en Europe pour encore quelques jours afin de défendre sa cause et de trouver quelques alliés pour faire libérer son mari. En région toujours, figurez-vous que le bonheur est à Chambly. Résident de Chambly, vous êtes plus heureux que la moyenne des Québécois, c'est du moins ce que suggère votre indice de bonheur relatif, l'IBR, établi en fonction de l'évaluation de 24 facteurs d'influence de bonheur, l'IRB, auto-évalué par les participants et calculé chaque année depuis 2006 par le conférencier Pierre Côté, qui a notamment participé à la série documentaire « Naufragés des villes » qui proposait à des gens de vivre durant 2 mois en ville ville avec une allocation d'aide sociale. L'accomplissement, la santé, le travail, la famille, les finances, l'amitié, l'environnement, l'altruisme et le profil socio-démographique font partie des facteurs d'influence de bonheur évalués en fonction de l'âge et du sexe du participant. Alors que la moyenne québécoise de l'IRB se situe à 76, eh bien Chambly est en tête du palmarès avec 79,4. Sainte-Julie fait aussi partie des villes les plus heureuses des 35 évaluées avec une moyenne de 78,5. Rivière-du-Loup vient ensuite avec 78,3, suivi de près par Victoriaville, 78,2. Toujours dans le top 10 des villes les plus heureuses, l'IRB moyen de Drummondville se situe à 77,90. Peu de facteurs se démarquent, positifs comme négatifs, sauf l'amour et l'amitié, avec des mesures de performance de 0,30 et 0,32. Autrement dit, il y a plus de gens amoureux, dans ces coins de pays comme Drummondville qu'à Montréal, par exemple. Sherbrooke présente un profil et un IRB moyen de 77. 18 facteurs s'avèrent positifs et le plus élevé d'entre eux est aussi l'amour, avec une mesure de performance de 0,31. La ville de Shawinigan aussi figure dans les premières positions et dans les villes dites les plus heureuses. De l'autre côté du spectre, l'IRB le plus bas se retrouve notamment à Alma. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. J'ai trouvé ça dans la tribune. Alors, bah, écoutez, bravo à Chambly. Je pense que c'est là que je vais déménager. Vous savez, près des chutes, là, c'est vachement joli dans ce coin-là. C'est cher un peu. Enfin bon. Oui, ne manquez pas cette émission-là. C'est une émission qui avait déjà été enregistrée au préalable. Aujourd'hui, c'est l'ami Stanley Péan que vous allez pouvoir entendre, animateur évidemment à la radio de Radio-Canada, ici Radio-Canada, mais aussi auteur, mais aussi amateur de jazz, bien sûr, trompettiste, en tout cas un bonhomme, ma foi, fort sympathique, et je suis convaincue que vous allez apprécier cette émission-là, comme toutes les autres d'ailleurs. Alors n'hésitez pas, parlez-en à vos amis. Une chose que j'ai oublié de vous dire, mes amis, c'est que vous savez que... Oh, là, je n'ai pas le téléphone sous les yeux et je ne m'en souviens jamais, mais on va me le donner très rapidement. Merci beaucoup. Vous savez que je suis à la recherche de nouveaux collaborateurs pour participer à l'émission Les Voix de service. Si vous avez envie, vous-même, peut-être, de faire de la radio, de nous partager des papiers que vous aimez dans des sujets qui vous passionnent plus que d'autres, n'hésitez pas à nous contacter. Venez participer à cette émission. Oui, c'est du bénévolat, mais c'est du très, très beau bénévolat. Tous les collaborateurs s'entendent pour le dire. Notre numéro de téléphone pour nous joindre et pour proposer vos services, 514-282-1999, donc 282-1999, extension 201, extension 201. Alors n'hésitez pas, appelez-nous et faites-nous savoir si vous ou d'autres personnes, peut-être de votre entourage, aimeraient participer à cette émission quotidienne, Les Voix de service. On s'en va à l'international. Et à l'international, notamment dans les pages du Devoir, on revient sur la Catalogne, le chemin sinueux vers l'indépendance. C'est signé Jean-Frédéric Légaré-Tremblay, qui nous dit que, fort de la victoire des indépendantistes lors des élections régionales du 27 septembre en Catalogne, le président Artur Mas doit mettre en branle un processus d'une durée de 18 mois devant mener à l'indépendance catalane. Alors, qu'est-ce qui, dans les prochains mois, attend les indépendantistes catalans? Comment les partis espagnols qui seront bientôt en campagne électorale se positionneront-ils? Voici des explications de Marc Sanjaume-Calvet, qui est post-doctorant à la chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes à l'UQAM. Alors d'abord, on lui demande en quoi consiste ce processus de 18 mois devant mener à l'indépendance. La réponse, la feuille de route de la coalition Ensemble pour le Oui, présenté pendant la campagne électorale, était inspiré par les étapes de l'indépendantisme écossais, et il y en a trois. La déclaration d'indépendance et communication de la volonté indépendantiste auprès du gouvernement espagnol et des institutions européennes, la mise en place des structures d'État, par exemple, la création de ministères et de perception des impôts, et la rédaction d'une constitution catalane, en principe après la tenue d'élections constituantes. Et puis enfin, la proclamation de l'indépendance après adoption de cette constitution par référendum. Madrid s'oppose bien sûr farouchement à l'indépendance catalane, mais tous les partis nationaux n'ont pas tous la même approche. Comment le Parti populaire, le PP de Mariano Rajoy au pouvoir, diffère-t-il des autres partis ? Réponse, le PP a probablement la position la plus intransigeante dans son refus d'une réforme constitutionnelle fédérale ou de négocier une entente sur la question catalane. La marge de manœuvre dans la négociation est donc beaucoup plus étroite dans ce parti que dans les autres. Le PP est fondamentalement la formation la plus conservatrice quant au caractère unitaire de la nation espagnole et aussi la plus nationaliste. La campagne électorale sera bientôt déclenchée en vue des élections générales espagnoles du 20 décembre. Comment les partis sont-ils susceptibles de jouer la carte de l'indépendance catalane ? La réponse à cela, d'une certaine manière, on peut parler d'une petite tragédie. Puisqu'à court terme, il est plus efficace d'être intransigeant et d'ainsi alimenter la polarisation sur la question catalane afin d'attirer l'électorat conservateur et socialiste hors Catalogne, même au risque d'empirer les relations avec le gouvernement catalan. Chez les socialistes, toutefois, on peut croire à un discours plus modéré puisque la Catalogne est pour eux une importante source potentielle de vote. Mais il y a plusieurs éléments à considérer dans leur cas. De façon générale, le Parti socialiste est peu enclin à reconnaître une asymétrie de pouvoir pour la Catalogne, comme en fait foi son dernier projet de réforme constitutionnelle et territoriale, la Déclaration de Granada, dévoilée en 2013. Voilà, donc on va continuer à suivre ça de très très près, évidemment au Québec, mais il y en a pour 18 mois, mes enfants, et vous savez pourquoi, il y en a des choses à réaliser avant une indépendance. Le conflit israélo-palestinien fait encore parler de lui et c'est Agnès Gruda dans la presse qui nous en parle ce matin. Elle nous parle de cette esplanade de tous les dangers. Une fois par mois, Sarah Lursa quitte son village du nord d'Israël pour faire l'ascension du mont du Temple dans la vieille ville de Jérusalem. Accompagnée par d'autres jeunes Israéliens, l'étudiante de 25 ans se livre à cet exercice dans l'espoir de faire lever toutes les restrictions qui limitent l'accès à ce lieu de culte vénéré tant par les Juifs que par les musulmans. Pour les premiers, l'esplanade qui surplombe le mur des Lamentations représente l'endroit où le roi Salomon a construit le premier temple juif, alors que les seconds y voient plutôt le dôme du rocher dont la coupole dorée recouvre le lieu d'où Mahomet s'est envolé vers le ciel sur son cheval blanc. C'est le premier lieu saint du judaïsme et le troisième lieu de culte en importance de l'islam. C'est aussi l'esplanade de tous les dangers, dont l'accès est strictement contrôlé pour éviter les explosions. De plus en plus d'Israéliens contestent ces restrictions. « Je veux pouvoir aller partout où je veux en Israël. Le statu quo est inadmissible », proteste Sarah Lursa, jointe par téléphone cette semaine. Ce statu quo date de la victoire israélienne à l'issue de la guerre des Six Jours, en juin 67. Après avoir laissé le drapeau israélien flotter sur le dôme du rocher, pendant quelques jours, le général Moshe Dayan avait décidé de céder l'administration des lieux aux autorités religieuses jordaniennes, façon d'apaiser les tensions ou d'assurer une paix durable. Depuis près de 50 ans, donc, seuls les musulmans ont le droit de prier sur l'esplanade des mosquées, tandis que les juifs pris en contrebas devant le mur des Lamentations. Ils peuvent se rendre sur la place des mosquées pour des visites touristiques en petits groupes, mais pas question de prier. Soumis à la pression de groupes de plus en plus influents, ce statu quo est en train de voler en éclats. Autrefois, seuls quelques juifs radicaux défiaient l'interdit pour aller prier sur le mont du Temple. Aujourd'hui, le phénomène s'étend au-delà d'une poignée d'illuminés. On ne parle plus d'un mouvement marginal, mais d'une vague qui touche des députés, des ministres et des jeunes, comme cette Sarah Lursa dont nous parlait ce matin Agnès Gruda. puis le monde en bref, en Afghanistan, l'hôpital de Médecins sans frontières a été attaqué par erreur. L'hôpital de Médecins sans frontières à Kunduz, touché par un bombardement américain samedi, a été pris pour cible par erreur, a déclaré hier le général John Campbell, chef de la mission de l'OTAN dans la région. Ce bombardement a fait 22 morts. Le général avait souligné lundi que la frappe avait été demandée par les autorités afghanes. En colère, MSF a accusé les Américains d'essayer de faire porter la responsabilité au gouvernement afghan. Aux États-Unis, une Québécoise a été assassinée à San Francisco. Une jeune Québécoise de 23 ans, originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, a été assassinée en Californie le week-end dernier. Le bureau du coroner de San Francisco a confirmé que le cadavre d'Audrey Carré a été découvert par un passant samedi matin près d'un club de golf de San Francisco. La jeune femme avait profité de son passage dans la région pour assister à un festival de musique. On n'en sait pas plus pour l'instant. Et puis au Yémen, le premier ministre échappe à un attentat. Le premier ministre yéménite est sorti indemne hier à Aden des premières attaques revendiquées par le groupe État islamique dans le sud du pays. Si Khaled Baha a échappé à la spectaculaire attaque contre l'hôtel où siège son gouvernement, 15 soldats de la coalition arabe et membres des forces loyalistes yéménites sont morts quand deux sites militaires ont été visés. Enfin, Facebook et Google devront s'ajuster. Les grands noms américains de l'Internet se retrouvent dans une situation difficile après la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui les empêche de transférer les données de leurs utilisateurs européens les données de leurs utilisateurs européens vers les États-Unis. Il me reste quelques minutes à cette émission. On s'en va dans le domaine culturel. Parlons d'abord de cet essai de John Saul qui force la résurgence autochtone. Le philosophe veut redonner aux autochtones la place qui leur est due au Canada avec le Grand Retour. Il y a plus de 400 ans, sur les rives du Saguenay, près de Tadoussac, Samuel de Champlain concluait une entente, écrit Caroline Monpetit, avec quelques nations autochtones qui devenaient par conséquent ses alliés. Quelques 160 ans plus tard, le roi de Grande-Bretagne, George III, statuait dans la même foulée qu'il fallait laisser aux autochtones la possession entière et paisible des parties de nos possessions et territoires qui n'ont été ni concédées ni achetées et ont été réservées pour ces tribus, c'est écrit dans la Proclamation royale du Canada. Pour résumer, on pourrait dire que tout le reste n'est que mensonge, c'est-à-dire que les traités conclus avec de nombreuses nations autochtones du Canada ont ensuite été bafoués par les gouvernements successifs du pays. Comme les gouvernements s'imaginent qu'ils ont acheté les terres des Autochtones, ils se conduisent ni plus ni moins comme des propriétaires de taudis, écrit John Saul dans son essai Coup de poing, Le Grand Retour, qui vient d'être traduit en français par Daniel Poliquin aux éditions du Boréal. La publication de cet ouvrage au beau milieu de la campagne électorale n'est pas forcément fortuite. J'ai interrompu un autre livre que j'avais amorcé pour terminer celui-là, dit John Saul, qui était de passage à Montréal mardi. Parce que la question autochtone, dit-il, est complètement occultée dans le débat électoral actuel. Or, la communauté autochtone est un fondement de l'identité canadienne et ce pilier fondateur de notre civilisation est aliéné. Pire, le fédéral investit chaque année plus de 110 millions de dollars en frais d'avocat pour appeler des autochtones en cour et tenter d'empêcher la reconnaissance de leurs droits. C'est incroyable. Et tout cet argent est perdu, car dans 90% des cas, poursuit John Saul, ce sont les Autochtones qui gagnent en cours. Alors son argumentation part de loin. Utilisant le darwinisme à des fins de colonialisme, écrit-il, les Européens se sont placés au sommet de la hiérarchie raciale. La chance qu'ils avaient, ces empires britanniques, français, allemands, américains et italiens, d'avoir la science moderne de leur côté. Mieux, il leur était loisible d'établir des liens de causalité entre le progrès, la hiérarchie et la pureté du sang. Cette attitude encore pérenne aujourd'hui, ajoute-t-il, a justifié non seulement la politique des pensionnats, mais toutes les politiques autochtones fédérales qui ont suivi. Quant à la pitié, C'est l'habit neuf du racisme, écrit M. John Saul. Voici un extrait de ce livre, ça s'appelle « Barrer la route ». Il dit « Il existe des solutions à la plupart des problèmes auxquels les Autochtones font face. Et notre pessimisme, notre culpabilité, notre pitié, notre dédain fait obstacle à ces solutions parfaitement réalisables. Les Autochtones sont en voie de les résoudre, mais nous leur barrons encore la route. » Cet extrait, je vous le dis, tiré du Grand Retour de John Saul. Saul, ça s'écrit S-A-U-L. Je m'en vais voir mes camarades du studio pour être sûr que ce livre-là sera lu prochainement. Chez Vues et Voix est disponible bientôt, soit par l'USQLA, soit par l'INCA, on verra bien. Et puis incroyable, les membres du CA du Festival des Films du Monde ont démissionné en bloc. Le Festival des Films du Monde, qui s'était retrouvé dans la tourmente l'été dernier, n'est pas au bout de ses peines. Les membres de son conseil d'administration ont démissionné en bloc la semaine dernière, à l'exception, précisent les sources, de Michel Fournier. Mais Serge Lozic, à la tête de ce conseil d'administration, préparerait sa 40e édition, comme prévu. Et puis oui, le festival du nouveau cinéma s'ouvre, mais le festival du nouveau cinéma est en deuil. Ce festival du nouveau cinéma qui démarre ce mercredi a choisi une œuvre belge complètement délirante, romantique et foisonnante à titre de signature. Mais il y a une ombre au tableau qui plane sur le rendez-vous du film montréalais, c'est La mort volontaire, lundi dernier, de la cinéaste Chantal Akerman, belge aussi, grande habituée du Festival du Nouveau Cinéma, venue ici avec une dizaine de films. Cette 44e édition est dédiée à l'exigeante cinéaste de La captive et D'un divan à New York, une grande exploratrice du 7e art. Au film de son compatriote de représenter le plat pays cette année avec le fantôme d'Akerman planant en arrière-scène. La mémoire cinéphilique n'a pas oublié Toto le héros et Le huitième jour. C'est l'univers poétique, visuel et émotif de Jaco van Dormael qui avait pris tous les envols. Là, il nous propose cette fois-ci le tout nouveau Testament. C'est en salle dès vendredi, une frénésie imaginative qui impressionne une fois de plus. Peut-être en aviez-vous entendu parler vendredi dernier. On a beaucoup parlé de cela, de ce film avec Charles Roy, avec même petits extraits. C'est une fable un petit peu à la Amélie Poulain qui fait le pari du bonheur en folle démesure avec ce que le cinéaste appelle dans le sillage de Cohen des perdants magnifiques, soit six nouveaux apôtres. On les recrute après avoir balancé aux humains, en détournant l'ordinateur paternel, leur date de décès. Tout cela avec Bruxelles en fond de scène, présenté sur maquette d'abord entre les mains du méchant dieu, puis par ses rues un peu croches et maussades. Toute une galerie de personnages, encore une fois, avec Monsieur Van Dormael. Donc ce nouveau film, le tout nouveau Testament, qui sera en salle dès vendredi. Et comme je vous le disais, ce festival marqué, oui, par des films sensationnels, certainement, mais marqué par le suicide de Chantal Akerman. Voilà, ce ne sont pas les livres que je referme, mais bien mes iPads et autres journaux sur ma table. Et je voudrais vous remercier mon ami Mathieu Tessier, qui était encore avec moi aujourd'hui. Et c'est toujours un bonheur, Mathieu, je ne le dirai jamais assez, de travailler avec toi. Pardon pour le bruit, le gros bruit de micro que je viens de faire. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à Christiane Campagna, qui va animer pour nous, pour vous, le bulletin du handicap. Quant à moi, je vous souhaite une belle fin de journée. Ne manquez pas des livres plein les oreilles dans quelques minutes avec Stanley Péan tout de suite après le bulletin du handicap. Salut.
Bonjour, je suis Gérald Cousineau, auteur biographe au regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Vous écoutez Canal M, la radio de Vues et Voix.
Le bulletin du handicap.
Bonjour, ici Christiane Campagna et voici vos manchettes en ce mercredi 7 octobre. 7% des bureaux de vote inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. Une quatrième grande corvée au Camp Papillon. Une équipe toute spéciale au deuxième Bromont Ultra. Deux livres pour aider les parents d'enfants autistes et faire un don à Mira en payant vos achats chez Rona. Au Québec, 93% des bureaux de vote dont l'utilisation est prévue à la prochaine élection fédérale sont considérés comme accessibles universellement, selon un rapport d'enquête publié lundi par Élections Canada. Cette proportion déçoit le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, le rapplique. Lise Pigeon a eu une mauvaise surprise en recevant sa carte d'information de l'électeur. Il y est écrit que son lieu de vote, situé dans Rosemont, n'est pas accessible au fauteuil roulant. Le carton me propose de voter par anticipation entre le 9 et le 12 octobre. Mais je ne suis pas prête pour voter d'ici au 12 octobre. Je veux vivre les élections de la même façon que les gens qui sont debout jusqu'au 19 octobre pour prendre une bonne décision, a confié Mme Pigeon à Métro. L'excuse que m'a donnée Élections Canada au téléphone, c'est qu'il n'y avait pas assez de lieux accessibles dans mon secteur, a poursuivi Mme Pigeon. Pourtant, ça fait 7 ans que j'y vote en fauteuil roulant. Il y a plein de résidences, d'écoles, il y a le Collège Maisonneuve. Mme Pigeon n'est pas la seule à vivre cette situation frustrante. Le rapplique a reçu au moins 5 plaintes à ce sujet dans les dernières semaines, dont l'une concernant l'auditorium de Verdun. Pourtant, une décision du Tribunal canadien des droits de la personne avait ordonné en 2010 à Élections Canada de cesser d'installer des bureaux de vote dans des locaux ne garantissant pas un accès sans obstacle. 5 ans plus tard, ce 7% de locaux non accessibles n'est pas justifiable. On est complètement passé à côté, a déploré Linda Gauthier, présidente du rapplique. On est tanné de se contenter de ce mieux que rien. On paie les mêmes montants de taxes et d'impôts que tout le monde, alors on s'attend au même service. Selon Francine Bastien, porte-parole d'Élections Canada, l'organisme n'a pas atteint son objectif en raison de diverses contraintes, comme la disponibilité de locaux accessibles. Elle rappelle qu'il existe pour les personnes handicapées des solutions alternatives, comme le vote à domicile et le certificat de transfert qui permet aux personnes d'être relocalisées. Mme Gauthier du Rapplique déplore de son côté que ces options nécessitent des démarches supplémentaires. Elle croit par ailleurs qu'il serait possible de trouver des locaux accessibles, par exemple des espaces vacants dans des centres commerciaux comme ceux des anciens magasins Target. Au Canada, c'est 96% des bureaux de vote qui sont considérés comme accessibles. Le 18 septembre dernier, une centaine d'employés de Plastique GPR dans Lanaudière se sont donné rendez-vous au Camp Papillon pour participer à une 4e édition de la corvée automnale de Plastique GPR. Sans doute l'une des plus belles contributions au Camp Papillon, s'exclame le directeur général de la Société pour les enfants handicapés du Québec, Ronald Davidson. Stopper toutes les opérations de l'usine pour corder du bois, peindre, réparer des plateaux d'activité, nettoyer des bâtiments et construire des abris au Camp Papillon, ça prend autant de courage que de cœur, conclut le directeur général du camp. Pour Dany et Gino Belleville, copropriétaires de Plastique GPR, cette activité est le reflet des valeurs de l'entreprise qui, entre autres, s'illustre par sa participation à des programmes d'inclusion et d'insertion sociale pour personnes handicapées. Les employés de Plastique GPR retirent une grande satisfaction à participer à une activité mobilisatrice et à laisser leur empreinte collective sur un site d'une si grande importance dans la vie des enfants et des jeunes, confie Dany Belleville. De son côté, la directrice du Camp Papillon, Alix Gauthier-Loisel, se dit désormais prête à accueillir les quelques 4000 campeurs qui séjourneront durant les mois d'hiver au Camp Papillon. Grâce à Plastique GPR, les installations du camp sont d'une qualité exceptionnelle, constate la directrice, déjà impatiente d'ouvrir les portes du site aux enfants et aux jeunes à l'occasion des fins de semaine de répit et de loisirs, des classes nature, des séjours de groupe et du Noël des Papillons, dont les festivités seront lancées dès le 1er décembre prochain. Le Bromont Ultra et son monumental parcours de 100 000, soit 160 km, le seul offert au Québec, sont de retour à Bromont les 10 et 11 octobre. L'événement se définit comme un ultra-marathon et cette année, un groupe se distinguera parmi les 1000 coureurs attendus. Des participants en situation de handicap ont ainsi décidé de s'attaquer au second parcours le plus long, celui de 80 km à relais. Leur participation est rendue possible grâce aux efforts de la Fondation des sports adaptés. Une vingtaine d'aide-coureurs seront sur place pour les épauler dans ce défi. Le président de la Fondation des sports adaptés, Steve Charbonneau, indique avoir eu l'idée alors qu'il participait à la même course l'an dernier. Après l'avoir terminée, ça m'est apparu comme quelque chose que je souhaitais faire vivre aux personnes vivantes avec un handicap. Les gens de Bromont Ultra ont adoré l'idée. Il s'agissait de trouver un moyen pour le faire. Les 9 membres compteront sur des outils mis au point récemment. À l'aide d'ingénieurs, un prototype de chaise spéciale a été conçu, ceci débouchant sur la première version utilisée ce week-end. La troupe et tous les autres inscrits aux 80 km prendront le départ en pleine nuit vers 3h30. Le froid viendra donc s'ajouter au défi que représente un tel parcours, qui traverse notamment les monts Brome, Despins, Gale et Oak. Des pentes abruptes, des roches et des racines se dresseront sur certaines portions du trajet d'un dénivelé de 3257 mètres. Certains des sentiers ne sont pas faciles d'accès. Les participants n'ont pas froid aux yeux. Ils nous font confiance et savent que leur sécurité est mise de l'avant, assure l'ancien footballeur. On travaille beaucoup sur l'inclusion. Un des participants, atteint d'une maladie dégénérative, ne s'est pas retrouvé en excursion en forêt depuis l'âge de 7 ans lors d'une sortie scolaire. Aujourd'hui, il en a presque 30 et on le ramène dans les sentiers. Il va tellement être excité de pouvoir y retourner qu'il ne dormira pas de la semaine. Pour nous, ça rejoint en plein notre mission d'améliorer la vie des gens grâce au sport. Se brosser les dents ou dormir toute une nuit dans son lit peut sembler banal pour les parents d'un enfant de 5 ans. Ces étapes peuvent toutefois s'apparenter à gravir l'Everest pour la famille d'un enfant autiste. La mère d'un autiste des Laurentides vient de publier 2 livres, « Alexandre se brosse les dents » et « Alexandre va chez le dentiste » pour faciliter le quotidien des parents d'enfants vivant avec un trouble du spectre autistique, un TSA. L'idée des contes, c'est d'aider les parents au quotidien, explique Guylaine Robert, mère d'Alexandre, un autiste âgé de 24 ans. Alexandre est le personnage principal car mon implication en autisme, c'est lui. Je me suis basée sur lui, sur mes 24 années d'expérience et sur tout ce que l'on met en application à la maison. Pour mieux outiller les parents, Mme Robert, qui évolue dans le monde de l'autisme depuis 1997, a décidé de créer une série de contes où des mots tels que « maman », »,« papa » et « tablette » sont remplacés par des dessins. Avec les jeunes autistes, le visuel reste, mais les paroles s'envolent, selon Mme Robert. Si on donne une consigne verbale à un enfant autiste, elle va disparaître plus vite que si on lui donne la même consigne accompagnée d'un pictogramme. Grâce à son livre « Alexandre chez le dentiste », Guylaine Robert espère venir en aide aux parents d'enfants autistes dans un moment qui les effraie. Déjà offerts en français et en anglais, les histoires d'Alexandre seront bientôt offertes en espagnol. Une version électronique sera également en vente d'ici Noël. L'auteur rêve de faire traduire ses livres en italien, en allemand et en portugais. Dès ce jeudi jusqu'au 31 octobre, Rona l'entrepôt passe le chapeau pour Mira. Pendant que vous attendez à la caisse pour payer vos achats, prenez le coupon correspondant au montant que vous souhaitez donner, soit 2, 5 ou 10 $ à votre choix, et remettez-le à la caissière qui le scannera. Le montant de votre don sera ajouté directement à votre facture. Le montant total récolté sera dévoilé lors de l'émission En mode salvaille le soir du 9 novembre, dans le cadre de la journée qui a du chien sur VTL. C'était votre bulletin du handicap sur Canal M, la radio de Visez-Voix. Le bulletin ainsi que les liens vers les nouvelles et organismes mentionnés sont disponibles au visezvoix.com. Si vous êtes un organisme, vous pouvez aussi nous envoyer vos nouvelles au canalm@visezvoix.com. C'est Christiane Capagnan et je vous souhaite une bonne journée.